France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de ATNT. Alors vous l'avez remarqué depuis hier soir, on ne peut plus se fier à rien hein, quand on voit que le football ressemble à du tennis, avec des scores de 6-1, heureusement pour le PSG il n'y avait pas 3-7. Hein. Donc certains autour de la table vont essayer de se consoler ce soir en parlant de l'actualité, et parmi eux nous recevons le président du groupe UDI à l'Assemblée Nationale, Philippe Vigier, bonsoir.
Bonsoir.
Également le communicant Franck Tapiro. Bonsoir, c'est vous hein, qui portez le deuil ce soir.
Oui, hein, je porte le deuil du PSG ce soir.
Voilà. Également Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir. Et Bruno Roger Petit, éditorialiste à Challenge.fr. Bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, nous parlerons des derniers soubresauts en politique, bien sûr, de François Hollande qui compte les points de programme comparés sur l'Europe. Mais juste avant, nous recevons Marie-Laure Guislain. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes avocate et membre de l'association Sherpa. Sherpa, alors, c'est une association qui protège et défend les populations victimes de crimes économiques. Et avec vous, nous allons parler de la société Lafarge-Holcim. Alors, ce n'est pas une passion pour le béton, mais c'est vrai qu'ils sont au cœur de l'actualité, puisque Sherpa, déjà, vous avez déposé plainte hein, en novembre contre cette entreprise qui aurait entretenu donc, une cimenterie dans le nord de la Syrie entre 2013 et 2014, en pleine zone tenue par l'État islamique. On va y revenir. Mais juste avant, Lafarge-Holcim fait également actualité, car selon son président, il serait en passe de remporter le marché pour construire le mur voulu par Donald Trump entre les États-Unis et le Mexique. Jean-Marc Ayrault était l'invité de France Info ce matin, le ministre des Affaires étrangères, et il a mis Lafarge en garde.
Il faut que cette entreprise réfléchisse bien. Non seulement une entreprise, elle a beau dire « je ne fais pas de politique », mais elle a une responsabilité économique et sociale et environnementale.
Vous en appelez à sa responsabilité.
Et d'autre part, elle devrait bien réfléchir à ses propres intérêts. Parce qu'il y a d'autres clients dans le monde qui vont regarder ça avec certaines stupéfactions.
Voilà, Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères ce matin sur France Info. Alors, Marie-Laure Guislain, eux, Lafarge, disent dans tous les cas, de toute façon, nous, on ne fait pas de politique. C'est leur angle. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça ?
Il nous semble qu'à travers leur communiqué, ils ont envie d'adresser un message pourtant, c'est-à-dire que la responsabilité est vraiment concentrée sur la responsabilité de la filiale, alors que c'est bien la responsabilité de la société mère qui est en jeu, puisque Paris prenait les décisions d'après les documents que nous avons, et c'est la société mère qui est visée dans notre plainte. Pour nous, ce cas reflète bien, en tout cas, justement, le problème de la responsabilité des sociétés mères et l'écart qui existe entre cette politique dont vous parlez, les politiques qui sont affichées par les entreprises, les politiques éthiques et la réalité sur le terrain. L'écart est grand aujourd'hui et donc montre que les politiques volontaires ne sont plus efficaces. Raison pour laquelle, certainement, cette loi sur le devoir de vigilance, qui est une loi contraignante et qui demande aux entreprises d'être responsables, est plus que jamais nécessaire.
Marie-Laure Guislain, juste avant, cette histoire justement de mur de Donald Trump construit, qui pourrait être construit par cette société, pour vous, comme le dit Jean-Marc Ayrault, est-ce que ça peut nuire finalement leurs intérêts? Est-ce qu'ils s'en préoccupent de ce genre de réputation?
Je pense que l'entreprise Lafarge n'a pas attendu Jean-Marc Ayrault pour se préoccuper de son image. Elle le fait au quotidien et c'est la raison pour laquelle, pour nous, même le communiqué prend soin de cette image, justement en précisant, par exemple, qu'ils étaient déficitaires ou qu'ils prenaient soin des salariés en Syrie ou qu'ils ne savaient pas à quel groupe ils s'adressaient. Or, a priori, nos informations montrent le contraire. Des laissés-passer tamponnés de l'EI, par exemple, montrent bien que Lafarge, a priori, savait à qui ils avaient affaire.
Oui, parce qu'il y a demain, c'est concernant votre plainte d'ailleurs et un éventuellement financement de l'État islamique. Le président de Lafarge, donc ça sera demain dans une interview apparaître dans le Figaro, dit qu'il ne fera aucun compromis si l'enquête interne apporte des preuves des destinataires. Donc finalement, votre plainte a été entendue ?
On l'espère, en tout cas, et c'est le juge d'instruction qui, effectivement, déterminera s'il doit aller plus loin dans l'enquête et le juge qui tranchera sur la responsabilité pénale. Mais a priori, Lafarge nous propose aujourd'hui comme unique solution la création d'un comité éthique. Or, encore une fois, on a vu que les politiques volontaires de Lafarge, jusqu'ici, ont été insuffisantes.
Philippe Vigier, vous-même, en tant que parlementaire, qu'une entreprise franco-suisse, franco-helvétique, soit justement là-dedans, on en parle donc de plaintes autour de financer des groupes terroristes pour pouvoir continuer à exploiter une cimenterie. Dans un autre cas, participer à un mur très polémique, ça prête à réfléchir, non ?
Il y a des choses différentes là.
Ah, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit, prête à polémique et voilà.
Bien sûr. Je sépare la polémique ou le financement du terrorisme.
Bien sûr.
Du terrorisme, là, immédiatement, il faut tout arrêter, et donc s'il y a une responsabilité, elle doit être assumée, et c'est à la justice de faire son travail. Si en revanche, un mur qui crée polémique, oui, mais à ce moment-là, si on commence à expliquer qu'il y a plein de pays du monde, on arrête de travailler parce que, par exemple, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de démocratie, on va partir d'un certain nombre de pays. Mmh. Croyez bien que si nous n'y sommes pas, c'est d'autres qui seront à leur place. On arrête de vendre des armes.
Ah ben, c'est logique. Pas,
mais vous avez vu quand même que depuis quelques années, les ventes d'armes, notamment les Rafales, qui ont été vendues avec beaucoup de talent par Jean-Yves Le Drian, alors que depuis longtemps on attendait, ce sont des emplois en France. Mm. Et rappelez-vous ce qui est arrivé avec les fameuses navettes qui devaient être livrées chez Poutine. Mm. Bref, je crois que non, soit si on touche au terrorisme, là, pas de quartier, d'accord, il faut tout arrêter. Dans l'autre cas, eh bien écoutez, c'est un problème d'appréciation. Et vraiment, je pense que Jean-Marc Ayrault... Non, en principe, lorsqu'on est ministre des Affaires étrangères, d'autant plus qu'il a été Premier ministre, on doit être l'ambassadeur de son pays. Quand je vois la force de frappe anglaise à l'heure actuelle, la force de frappe en termes de diplomatie économique, la France a des efforts à faire.
Marlo Guislain, quand vous entendez ça, finalement, vous-même, chez Sherpa, c'est ce contre quoi vous vous battez.
Mais tout à fait, et il faut faire une différence effectivement entre être impliqué dans un pays où un régime serait critiqué et être impliqué dans un pays et réellement être en violation des droits nationaux et internationaux. C'est bien ce qu'on demande aujourd'hui et c'est ce que la loi historique du 21 février sur la responsabilité des multinationales demande, c'est-à-dire un respect des droits humains sur la chaîne de production. On se demande comment ici Lafarge n'a pas redoublé de vigilance sur cette filiale qu'elle détenait à 100%, surtout dans un état en crise aussi médiatique.
Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, on suivra en tout cas ces affaires avec vous, puisque votre plainte est toujours en cours, la plainte de l'ONG Sherpa. Merci beaucoup, Marie-Laure Guislain, donc de l'association Sherpa. Je rappelle également que vous êtes avocate. Merci d'être passée ce soir aux informés de France Info. L'info à 20h10, c'est Stéphane Milhomme.
Après les incidents mardi midi au lycée Sugère de Saint-Denis, 6 mineurs sont mis en examen ce soir en région parisienne. 2 autres placés sous le statut de témoins assistés. Ils font partie des 55 personnes interpellées dans la foulée des violences qui ont visé l'établissement et violences sur les policiers. Ils ont reçu des pierres mais également du mortier et des cocktails Molotov. 2 ans de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende requis contre François Pérol, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, est jugé en appel à Paris pour prise illégale d'intérêt lors de sa nomination à la tête du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Il s'occupait de ce dossier quelques mois auparavant quand il travaillait pour la présidence de la République. Emmanuel Macron anime comme prévu son meeting à Talence. La salle de Médoquine dans cette commune de l'agglomération bordelaise a été vandalisée la nuit dernière. Des vitres cassées, plusieurs inscriptions à la peinture bleue visant explicitement le candidat d'En Marche. Une enquête est désormais ouverte. Donald Tusk, réélu président du Conseil européen. Toute cette journée, Varsovie a tout fait pour empêcher la reconduction de ce candidat à la tête du Conseil de l'Union européenne. Le Polonais occupe le poste depuis 2014, mais il reste très contesté dans son pays. Et puis la tension est en train de retomber dans le ciel de Tunisair. La compagnie nationale tunisienne annonce la reprise partielle et progressive de ces vols. Ils sont cloués au sol depuis plusieurs heures en raison de vives tensions sociales entre ces pilotes et ces mécaniciens.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir le président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, Philippe Vigier, également le communicant Franck Tapiro, Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France et Bruno Roger Petit, éditorialiste à challenge.fr. Et pendant ce temps-là, donc la campagne continue et à droite on souffle un grand coup et on prend l'air ce soir puisque François Fillon est en meeting à Besançon. Une réunion qui sera bien sûr suivie par de nombreux journalistes et désormais les rédactions voient, vous savez, leurs plus jeunes éléments ou ceux qui sont presque en fin de carrière car vu l'hostilité des militants à l'égard de la presse, on n'est pas sûr de les revoir entiers, donc on les envoie. François Fillon a présenté une nouvelle équipe autour de lui aujourd'hui, surtout 3 hommes, François Barrin, Christian Jacob et Luc Châtel, Riri Fifi Loulou, certains les appellent comme ça, Sarkozy, qui encadre désormais celui qui voulait se défaire de Nicolas Sarkozy, c'est plutôt dommage, et Luc Châtel en est d'ailleurs très content, il ne parle que d'amour ce soir, Luc Châtel.
Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de sarkozistes, de juppéistes, de lemeristes. Il y a des électeurs de droite qui veulent gagner. Il y a une France qui souffre. Et rien ne serait pire que de la mettre entre les mains de celui qui est finalement l'héritier de François Hollande. Nos électeurs de droite, ils sont en colère. Ils veulent qu'on se rassemble. Ils veulent qu'on aille au combat. Ils veulent qu'on gagne. Et donc là, il n'y a plus de chapelle. Tout le monde est rassemblé derrière celui qui est notre candidat.
Voilà, le nouveau porte-parole donc de François Fillon, Luc Châtel. Henri Vernet, ces nouvelles nominations, ça peut aider François Fillon ?
Bon, en tout cas, ce qui est amusant, c'est que Châtel vient de le dire, il a raison, il n'y a plus de jupéistes, il n'y a plus de lemeristes, ça c'est sûr. En revanche, il y a des sarkozistes et quelque part, il est mis sous surveillance, il y a l'œil de Sarkozy sur cette campagne. Est-ce que ça peut l'aider? Bah, ça peut l'aider, oui, dans la mesure où justement, ça peut remobiliser les sarkozistes. On le sait, hein, il y a un pouvoir quand même de, je veux dire, ils savent faire une campagne de ce côté-là, pour mobiliser les troupes, il y a un vrai savoir-faire. En revanche, là où ça peut être un petit peu plus délicat, bah, c'est sur ceux qui, du coup, risquent de s'éloigner, donc notamment les jupéistes, hein, dont on voit, bon, il reste Pécresse, bon, enfin disons qu'elle est une jupéiste à géométrie variable, hein, un coup filloniste, un coup jupéiste, donc voilà, elle sait s'adapter, donc il risque de perdre ça. C'est intéressant d'ailleurs que Macron, qui est ce soir à Bordeaux, a rendu des hommages assez vibrants à Juppé, donc il se dit que dans cet électorat-là, il y a peut-être des gens à récupérer. Bon, maintenant,
alors justement ce soir, alors c'est assez étonnant, hein, parce qu'il y a un livre qui sort, c'est le vôtre, Bruno Roger Petit, on reconnaît la personne qui est là, vous voyez Philippe Vigier, c'est un candidat que vous soutenez, c'est François Fillon, avec ce titre qui n'est pas très gentil, on va le dire, hein, Bruno Roger Petit, c'est le pire d'entre eux. Aujourd'hui, donc, vous avez écrit ce livre, donc un livre ne s'écrit pas en 5 minutes, donc pour vous, ça fait longtemps que vous étudiez le François Fillon, Bruno Roger Petit. Ouais,
j'ai écrit ce livre dans la foulée de sa victoire à la primaire, parce qu'effectivement, en regardant le parcours, les forces politiques qui se reconnaissent en lui, etc., je me suis dit, il y a un gros problème dans ce pays avec ce candidat-là.
Pourquoi?
Bah déjà, il y a un problème personnel. On le voit bien, c'est que c'est un candidat qui est en décalage avec ce qu'attend quand même une énorme majorité du peuple français. C'est-à-dire que c'est le candidat de la droite d'avant-hier qui aspire à devenir la droite de demain. Bon. Et vous voyez bien, c'est toute la séquence qui s'est ouverte depuis une semaine. Que dit Alain Juppé au fond? Il dit aujourd'hui il y a deux droites. Il y a la droite traditionnelle, celle qui a régné sur la droite pendant 60 ans avec le général de Gaulle, qui est plutôt gaullienne, plutôt libérale, y compris sur le plan économique et sociétal, et plutôt européenne. Bon, cette droite-là, aujourd'hui, avec Alain Juppé, elle a pris sa retraite, elle est effacée. C'est la fin du surmoi gaulliste. Et on en revient à ce qu'était la droite d'avant, c'est-à-dire une droite identitaire, conservatrice, sur le plan économique, social, sur le plan sociétal, et qui est ce que Patrick Buisson, fort justement, a nommé la droite du populisme
alors,
chrétien.
Justement, Philippe Vigier, alors vous-même, vous êtes de l'UDI, vous soutenez François Fillon. Vous vous reconnaissez là, dans le portrait que vient de faire Bruno Roger Petit, de candidat que vous soutenez?
Non, en écoutant, je me disais vraiment, non, on n'y aura rien épargné. Maintenant, il y a une avalanche de bouquins qui arrive. Je ne l'ai pas lu, je le lirai avec un esprit de gourmandise.
Très bien.
Moi, j'ai soutenu Alain Juppé maintenant. Très simplement, j'avais expliqué que je soutiendrais celui qui gagne la primaire. François Fillon a gagné cette primaire, on sait ce qui est arrivé depuis quelques semaines. Il a eu au moins le courage de reconnaître qu'il avait commis des erreurs. Vous m'accorderez qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'État, de gouvernement.
Non, mais je le reconnais aussi, l'opinion a trotté.
Il n'y a pas beaucoup de... Non, mais les autres politiques, le coiffeur de M. Hollande à 10 000 euros par mois, plus personne n'en parle. Ça, c'est très bien. Tout est normal. Mais ce Cahuzac, les yeux dans les yeux, nous disant à l'Assemblée nationale, non, j'ai pas de compte en Suisse, j'ai pas de compte à l'étranger.
Parce qu'on en a parlé en temps voulu. On en a parlé abondamment.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, alors maintenant, il est de droite, non. Écoutez, moi, je suis centriste, je reste centriste, je l'étais depuis l'âge de 20 ans, vous voyez, donc, j'ai pas changé. Non, dans l'Europe, pardonnez-moi, si vous avez dû lire le projet européen de François Fillon, c'est un projet européen, il me semble-t-il, qui est crédible. Il ne s'agit pas, par exemple, prendre un seul exemple. L'Europe, les citoyens ne comprennent plus à quoi elle sert. L'Europe s'est éloignée d'eux. L'Europe est un machin, alors qu'il faut que l'Europe les protège, que l'Europe soit capable de nous réindustrialiser.
Alors,
on voit bien dans le terrorisme, on voit bien dans la crise de l'immigration. Non, mais attendez, pardonnez-moi, il y a le Brexit qui vient de se passer.
Bien sûr, on va en parler, c'est prévu.
Oui, mais comment fait-on demain pour redonner un idéal européen? Comment cette France va devenir forte au moment où il y a eu tel décalage entre l'Allemagne et la France?
En fait, pour revenir, je vais vous dire pourquoi, parce qu'à mon avis, la question aussi que pose Bruno Roger Petit, et c'est vrai que ça peut interroger beaucoup de gens, on a vu, je parle pas de la politique, partir, revenir, là, on se dit, c'est vrai que François Fillon a défini son programme comme un choc libéral, et on se dit, c'est vrai que les centristes à la base ne sont pas forcément attirés par ce genre de choc
projet,
libéral.
Sur le projet, pardon, projet santé, j'ai passé beaucoup d'heures avec d'autres à réécrire ce projet qui, je crois maintenant, est parfaitement juste, qui sera efficace. Et il a été à l'écoute sur l'Europe, justement, sur le projet environnemental, sur le projet pour l'école, sur, je viens de le dire, sur tout ce qui concerne les affaires sociales. Il a montré cette ouverture, cette capacité d'écoute, parce que je veux quand même vous dire une chose. Cette France, elle est comment 5 ans plus tard? Elle est comment? Les chômages ont augmenté ou pas? Il y a 1 million de chômeurs en plus. Est-ce que les jeunes ont un meilleur avenir? Est-ce que la dette, on a pu la réguler? Alors que jamais on a eu un environnement économique aussi bon, vous serez d'accord avec moi, que ce soit le taux d'intérêt, que ce soit le prix des matières premières, que ce soit la parité euro-dollar. Et quand vous dites il représente une droite, comment dirais-je, ancienne qui veut se projeter dans l'avenir, Par exemple, sur le virage du numérique, il propose quelque chose qui est pour moi très important.
Internet. Non,
mais pardonnez-moi, mais le numérique, quel est le projet qui en parle?
Bien sûr, mais...
Alors le numérique, c'est la transition pour tous les emplois de demain.
Il n'y a pas que ça. Bruno, je vous prends un exemple. Quand je parle de problème sociétal, c'est le seul candidat aujourd'hui, le seul parmi les grands candidats, qui propose de réécrire en partie la loi Taubira sur le mariage pour tous, parce qu'il est urgent, de son point de vue, de s'occuper des problèmes, dit-il, liés à la filiation. C'est-à-dire que, pour se faire plaisir et satisfaire la Manif pour tous, et notamment l'organisation Sens commun, qui est un des pivots, des clés de la campagne Fillon, on s'apprête à embêter un certain nombre de familles, à casser la vie, à pourrir la vie d'un certain nombre d'enfants, qui sont quand même plusieurs centaines et quelques milliers, parce que, idéologiquement, on entend envoyer un marqueur fort de conservation sociale. Premier point. Deuxième point, sur l'IVG, c'est pareil. François Fillon, je le raconte dans le livre, est celui qui systématiquement a voté contre toutes les propositions ou les projets de loi accordant plus de facilité, plus de facilité d'accès à pour les femmes qui étaient en demande de voir pratiquer une IVG. Bon, voilà, c'est tout.
Alors, et je vais en répondre parce que là,
vous êtes de cette droite-là.
Sur deux sujets.
Aujourd'hui, vous êtes derrière ce candidat.
Mais pardonnez-moi. Vous ne pouvez pas dire quelque chose qui n'est plus d'actualité. Il a voté contre tous les textes, c'est vrai, mais il a dit qui ne reviendrait pas sur le texte du mariage pour tous. Donc vous ne pouvez pas dire le contraire.
Sur la filiation, sur la filiation, il y a une volonté de réécriture.
Sur la PMA et la GPA, il y a accord total. On a un point de divergence avec lui, vous voyez. Moi, je suis UDI, j'ai un point de divergence avec lui. Justement, c'est sur la filiation. Mais donc, il a précisé, mais comme vous aviez tout lu certainement, j'imagine que vous avez fait un travail avec beaucoup de précision, il y a un discours qu'il a prononcé il y a quelques semaines dans lequel il a dit « De toute façon, l'urgence, c'est pas ça. L'urgence, c'est la croissance et l'emploi. Et on va pas perdre de temps à rediviser les Français. » Tant ce pays, je termine, a tellement été déchiré par cette loi à l'époque où elle s'est créée. Et il fallait avancer. Et c'est une erreur de la droite que d'avoir pas su faire en sorte qu'on trouve une solution pour ceux qui voulaient vivre ensemble et se marier.
On va continuer à en parler notamment avec vous, Franck Tapiro. Dans un instant, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Il reste encore 15 000 foyers français sans courant ni chauffage après le passage de la tempête Zeus jusqu'à lundi dernier, principalement en région Bretagne. Le réseau Enedis prévoit un retour à la normale dans la soirée pour l'Auvergne et le Limousin. Le trafic des TGV entre la France et le Luxembourg a repris aujourd'hui. Il était interrompu depuis le 3 mars à la suite d'un accident sur la voie mi-février. La SNCF confirme que le trafic des trains express régionaux s'améliore. Il est emprunté chaque jour par des milliers de frontaliers. Extradé de Suisse, Merwan Benhamed est ce soir incarcéré en France. L'ancien membre du groupe islamique armé a été remis la semaine dernière aux autorités françaises. Il avait vainement demandé l'asile à la Suisse après avoir quitté son logement en France en septembre dernier alors qu'il était assigné à résidence. Johnny Hallyday se bat contre son cancer et donne rendez-vous à ses fans. Le chanteur fait taire les rumeurs. Oui, il est atteint de cellules cancéreuses, mais pas question de remettre en cause les 17 dates de sa tournée Vieille Canaille aux côtés d'Eddie Mitchell et Jacques Dutronc cet été. Et puis Philippe Poutou a du mal à trouver ses 500 parrainages pour la présidentielle. Le candidat du NPA appelle les élus à l'aider et les partis de gauche à ne plus faire obstacle. Son compteur affiche moins de 200 signatures. Les élus ont jusqu'au vendredi 17 mars pour envoyer ses parrainages au Conseil constitutionnel.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la campagne qui n'arrête plus, et notamment François Fillon aujourd'hui qui a remanié donc son équipe, un petit peu cornaqué même beaucoup par des sarkozistes pur jus, notamment François Baroin. Franck Tapiro, on a appris aussi que François Fillon, lundi, allait parler cette fois-ci, mais pas comme d'habitude, pas comme trois points presse auparavant, là pour parler de son programme. Il paraît très qu'il pourrait un peu l'adoucir. Voilà, est-ce qu'il fait bien d'ailleurs, à votre avis ?
Oh, non, je pense pas. Je pense justement pas, parce que après tous les allers-retours qu'il y a eu par rapport à Fillon, il a été élu par rapport à un programme, par rapport à une thématique, par rapport à un positionnement. Il lui est arrivé ce qui est arrivé. Aujourd'hui, il a réussi à passer, on va dire, cette tempête. Pour l'adoucir, je pense qu'il risque de manquer de crédibilité. Déjà qu'il a du mal avec le jeu. Il a du mal à être en dehors d'une forme de sincérité. Je pense que là, s'il va vraiment essayer d'ouvrir, il risque de se décrédibiliser. N'oublions pas qu'il a été élu quand même aux primaires grâce à ce programme. Non, moi, je voulais revenir sur ce livre, mais comme je ne l'ai pas lu, je vais le faire comme dans mon métier avant de voir le contenu. Je vais essayer d'en parler comme un outil de com'. D'abord, il tombe au très bon moment.
Donc, bravo. Vous parlez du livre de Bruno Roger Petit.
Le pire d'entre eux. D'abord, le timing est parfait. Parce qu'il arrive vraiment après une séquence extraordinaire. Donc, j'ai hâte de le lire. J'adore le titre. À plus d'un titre. Pourquoi ? Parce que le pire d'entre eux fait évidemment référence au meilleur d'entre nous qui était Juppé.
Alain Juppé.
Et le pire d'entre eux, c'est évidemment. Alors, c'est très dur, hein, parce que c'est. Mais au moins. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un titre qui dit réellement voilà, son positionnement.
Ah bah, on va expliquer
pourquoi. Il est... Mais il y a aussi autre chose. Il y a la caricature.
C'est un formidable attaché de presse.
Ah oui, c'est ouais, incroyable. Vous êtes venu avec Bruno Roger Petit.
Je n'ai pas fini.
Allez-y, Franck.
Après, il y a qu'on s'est pas vu.
Après, il y a la caricature. Ce que j'aime bien, c'est que Fillon est celui qui employait le plus le mot caricature. Vous savez, en disant c'est de la caricature des médias, la caricature des journalistes.
Il y a une caricature sur la une.
Et c'est rare, c'est très extrêmement rare de voir un livre avec une caricature d'un homme politique. Mais derrière, il y a le second message, un peu plus en filigrane, c'est le mot pire. Parce qu'en fait, ce que vous sous-entendez, et ça c'est vraiment assez dangereux en politique, parce qu'il faut débattre là-dessus, c'est que pour vous, donc apparemment, Fillon, c'est la France du pire, c'est la France qui a peur. C'est la France qui envisage le scénario le plus catastrophique, et on est sur le catastrophisme. Alors, pour essayer d'être et d'incarner une solution. Donc moi, ça m'intéresse de le lire pour voir si ce message subliminal que je vois est juste ou non.
Juste avant une réponse, Bruno Roger Petit, Henri Vernet. Voilà, Henri Vernet, justement, juste sur cet assouplissement de programme. On en parle d'ailleurs depuis le début, notamment même à l'UDI, à un moment quand François Fillon a été élu. Vous aviez demandé à un moment des ajustements, que ça soit des choses moins fortes, plus violentes.
Et aujourd'hui, vous les découvrirez lundi.
Voilà, justement. Alors lundi, justement, Henri Vernet.
On les découvrira, sauf qu'on a déjà vu qu'il a commencé à adoucir, à émolier son programme. Ça, c'est pas entendu parce que tout simplement, on était dans l'affaire et que tout ça, c'est vrai que le bruit assourdissant.
Alors, vous dites ça, mais en même temps, sur la sécurité, par exemple, on l'a trouvé plus dur, François Fillon.
Sécurité, il a le temps, justement, de modifier un petit peu les choses. Non, mais sur l'aspect qui était le plus rugueux de son programme et qui avait fait réagir, donc, y compris chez vous, les centristes et chez beaucoup de Français, c'était d'abord sur la santé, c'est-à-dire ce risque de voir une espèce de double traitement, en gros, entre ce dont s'occuperait la sécurité sociale, qui serait réservée aux grands risques, et puis donc une prise en charge beaucoup plus importante pour les gens eux-mêmes, les mutuelles, etc. C'est-à-dire, en gros, une espèce de privatisation un petit peu à l'anglo-saxonne. Donc là-dessus, il y est déjà revenu. Simplement, ça s'est pas vu. Et je pense que l'intérêt de cette conférence de presse, c'est de montrer qu'il a entendu un certain message. Par ailleurs, vous citez les 4 millions, on est toujours là-dessus. Mais attention, d'abord, les électeurs de la primaire, ce ne sont justement que 4 millions. On a compris maintenant que c'était un électorat qui était quand même assez individualisé, c'est-à-dire plutôt des urbains ou notables, de villes moyennes, etc. En effet, une France assez catholique, peut-être pour vous, Bruno Roger Petit, c'est le pire de la France. En tout cas, c'est une France qui n'est pas toute la France. Et donc, ça suffit pour gagner une primaire. Ça suffit aujourd'hui pour le remettre en selle, parce que, y compris les gens de sens commun, aujourd'hui, ils sont beaucoup dans le QG de François Fillon, tout simplement parce qu'il y a des places à prendre. On voit aussi se rapprocher le maire de Neuilly, Fromentin, UDI ou ex-UDI d'ailleurs, qui est un petit peu de cette mouvance également. On voit ça. Mais il a besoin d'élargir. Il a besoin de s'adresser
à Vichy par rapport à sens commun, vu que c'est parti, pour vous, est-ce que vous êtes à l'aise, finalement, à côté de ces personnes ?
On ne va pas commencer à exclure les uns et les autres. Ce qu'il faut, c'est que l'influence des uns et des autres ne soit pas celle qui donne la ligne politique. La ligne politique, on la connaît, c'est le François Fillon. Moi, simplement, sur la santé, je vais revenir une seconde.
Ouais,
en plus, c'est mon métier. Alors, pardonnez-moi, je suis biologiste, donc j'ai pu voir la méthode. La méthode, d'ailleurs, c'est un peu celle que Bordeaux a pris avec le Grenelle de l'environnement. On a fait des auditions de tous les acteurs pendant un mois. Le document auquel nous sommes arrivés est un document qui nous permettra un vrai projet de santé, de mieux soigner les Français avec moins de reste à charge et notamment avec plus de prévention. Là encore, est-ce que depuis 5 ans, ça va mieux sur la santé ? Le déficit sont toujours là, contrairement à ce qu'on raconte. 130 milliards de côté, Madame Touraine, elle a tout oublié. Pour cette seule année, je prends cet exemple, 200 millions d'euros de médicaments qui sont remboursés.
Est-ce que les remboursements seront les mêmes, Philippe ?
Ils seront mieux remboursés, pourquoi ? Parce que François Fillon, de l'autonomie, par exemple, aux hôpitaux. Il va rapprocher le public et privé alors qu'on a tout fait pour les séparer pendant ces 5 ans.
Est-ce que les mutuelles auront une place plus importante ?
Mais pas du tout. Vous savez, vous, lorsque vous avez une ordonnance qui est remboursée par la Sécu, qui est remboursée par la mutuelle, ce que vous savez en revanche sur votre feuille de paye, c'est que la mutuelle, vous savez, elle est obligatoire. Oui. Et vous savez qu'en plus, elle est fiscalisée. Donc, vous avez moins de pouvoir d'achat. Et moi, ce que je sais, c'est que les frais de gestion des mutuelles sont beaucoup plus importants qu'ils ne sont dans la Sécu elle-même. Ce que l'on fera, on fera un vrai parcours de soins avec une efficacité, une efficience pour faire en sorte, justement, que les Français se soignent mieux qu'ils ne le soignent avec des mesures. Je vais prendre ce dernier exemple sur la prévention. Est-ce que les crédits de prévention dans le domaine de la santé ont augmenté ou diminué depuis 5 ans ? Ils ont diminué depuis de 30%. 1 euro de prévention en moins, c'est 10 euros de soins curatifs en plus.
Donc ça, c'est quelques pistes qui
vont être développées lundi.
Vous allez casser la surprise.
Simplement, c'est une capacité à montrer que sur un projet qui reste le socle de son élection à la primaire. On peut avancer, on peut le préciser, on peut l'amender à la seule condition que si on veut rassembler, on doit faire en sorte que chacun s'y retrouve.
On va y aller,
on peut reculer un petit peu.
Allez, dans un instant, on va parler de l'autre côté de l'échiquier politique, la gauche. On parlera également de l'Europe. Voilà le programme à suivre des informés de France Info.
Je pensais à quelque chose.
Ah ouais, c'est quoi ?
Si c'est les jours c'est maintenant chez Citroën, c'est maintenant, c'est pas après. Du coup, maintenant, c'est déjà passé. Mais on peut pas passer à côté de 2 400 € de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C1 ultra personnalisable. C'est pour ça qu'il faut y aller maintenant et pas après.
Tu es dépassé.
Pendant les jours c'est maintenant chez Citroën, bénéficiez de 2 400 € de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C1. C'est maintenant, c'est pas après. Citroën.
Offre valable jusqu'au 31 mars, détails sur citroën.fr.
Attention, attention. Corum est un placement immobilier, donc un placement à long terme qui n'est pas liquide immédiatement. Et évidemment, capital et revenus ne sont pas garantis. Toute la documentation est sur corum.fr. Voilà, c'est dit. Sinon, c'est quand même l'opportunité de placer votre argent dans l'immobilier à partir de 1 060 € tous frais inclus, de toucher vos revenus tous les mois et d'investir dans toute la zone euro. Autre chose, la petite voix ?
Rien, tout a été dit.
Bon, j'aime mieux ça.
Corum, l'immobilier sans l'immobilité. Corum.fr.
Corum, Visa SCPI délivré par l'AMF, géré par Corum Asset Management.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Ce sera mieux demain. Encore beaucoup de nuages le matin sur la plupart des régions. Des brouillards. On trouvera quand même des éclaircies près des frontières du Nord. Du plein soleil sur les Pyrénées, de la Méditerranée jusqu'aux Alpes. Le Mistral atteindra encore 70 km à l'heure. Il fera 2 degrés à Nancy, 4 à Toulouse, 7 à Paris, Lyon, 9 à Brest et 11 degrés à Marseille. L'après-midi, du très beau temps pour la moitié sud. De belles éclaircies en remontant vers le Nord. Elles resteront tout de même discrètes entre le Poitou, la Normandie, le Nord de la Bretagne. Pour les températures, un petit air de printemps avec 13 degrés à Cambrai, à Colmar, 14 à Paris, 17 degrés à Nantes et à Lyon, 21 à Bordeaux, Marseille, Ajaccio, 23 à Bayonne et 25 degrés à Perpignan.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Jean-Marc Ayrault appelle à la responsabilité. LafargeHolcim, le groupe franco-suisse, premier cimentier mondial, s'est dit en effet prêt à participer à la construction du mur controversé de Donald Trump à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le chef de la diplomatie française qui rappelle que les entreprises ont aussi une dimension sociale et environnementale. Comment le PSG va-t-il se remettre de la correction d'hier soir par le Barça de cette humiliation 6-1 éliminée de la Ligue des Champions après cette défaite reléguée à 3 points du leader monégasque en championnat? Le Paris Saint-Germain reste en course en Coupe de France et disputera la finale de la Coupe de la Ligue le 1er avril prochain. Mais pas sûr que cela suffise aux Qataris qui investissent depuis des années à coups de millions dans le club parisien. Christian Chéneau.
Ce nouvel échec est un coup de massue qui a fait trembler les murs du Palais Royal à Doha. L'émir Tamim, vous le savez, est un passionné de foot, mais c'est aussi un homme d'affaires avisé qui veut un retour sur investissement. Or, rien ne se passe comme prévu, malgré de grosses dépenses en termes de recrutement, de budget. L'image et la notoriété du club est pas ricochée. Celles du Qatar sont ternies par ces échecs à répétition. Pour sortir du piège, me confie un expert sportif qui connaît bien l'émirat, eh bien les Qataris ont 2 options sur la table, soit remettre encore plus d'argent dans le PSG, soit entamer une forme de désengagement du club. Alors, on n'en est pas encore là, mais ce revers sportif intervient dans un contexte de morosité au Qatar. Il y a moins d'argent dans les caisses de l'État à cause de la baisse des revenus pétroliers et gaziers. L'émir Tamim répète à longueur de discours qu'il faut arrêter les dépenses extravagantes et la gabegie. Bref, après le fiasco de Barcelone, il fait guère de doute que le PSG est dans le collimateur de l'émir qui va réclamer des comptes.
Christian Chéneau, du football sur les terrains avec les 8e de finale aller de l'Europa League ce soir à Lyon qui reçoit l'AS Rome à partir de 21h tout à l'heure. Le mari de Jeannie Longo, condamné à 1 an de prison avec sursis, 5 800 € d'amende pour avoir importé de l'EPO, un produit dopant. C'était entre 2008 et 2011. Il en avait acheté une 30aine de flacons pour un peu moins de 3 000 €. Les producteurs de foie gras font grise mine. La consommation en grande surface a baissé de 9,3% l'an dernier à un peu moins de 5 000 tonnes en raison d'une offre réduite due à l'épidémie de grippe aviaire. Et puis le Guatemala sous le choc au lendemain de la mort de 31 adolescents dans l'incendie d'un foyer pour mineurs, dont le personnel est accusé de mauvais traitements et d'abus sexuels. Ce sont des pensionnaires du foyer eux-mêmes qui auraient allumé le feu accidentellement au cours d'un mouvement de protestation et provoqué ainsi la tragédie. 3 jours de deuil national ont été décrétés.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Qui résistera à la mode du selfie? Je ne sais pas, Franck Tapiro. En tout cas, allez, les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Ils sont vifs, pétillants, sortis du blister de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, Philippe Vigier, également le communicant Franck Tapiro, Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, et Bruno Roger Petit, éditorialiste à challenge.fr. Rapidement, avant qu'on passe à gauche, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on sait qu'on parler de santé, c'est avant tout le programme qui est intéressant. Un petit mot, Bruno Roger Petit, sur le choix, justement, de François Baroin. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, il y a un ticket, comme on dit?
Non, il n'y a pas de ticket, je vais vous dire pourquoi. Parce que, dans une élection présidentielle type 5e République, il y a le candidat, il y a le peuple en face, et l'idée qu'on puisse faire un ticket pour faire joli et pour essayer de rameuter autant que faire se peut des électeurs un peu plus libéraux et un peu moins conservateurs, sociaux et sociétaux que ceux qui sont aujourd'hui les électeurs de François Fillon, ça ne marchera pas comme ça, parce que ça n'a jamais marché comme ça.
Tout simplement.
Moi, ce que j'aime bien, c'est dans les mots, c'est son rôle. Aujourd'hui, il est chargé du rassemblement politique.
Oui.
Et là, on voit l'héritage chiracien. Le rassemblement politique. Ouais. Je trouve ça magnifique, c'est pas évidemment fait par hasard, c'est fait pour toucher une certaine droite chiracienne, gaulliste, radical-socialiste, même parce qu'on va aussi sur les racines. Hein. Oui. On va très loin. Là, c'est de l'élargissement plutôt assez malin.
Oui, mais une question quand même, est-ce que François Baroin a ce poids-là?
Il a cette étiquette, hein, ce qu'on disait, c'est-à-dire le côté, d'abord la génération, plus jeune, les enfants de Chirac, le côté laïcité aussi, hein, c'est un laïcard, on peut dire, c'est un grand mot, mais disons que voilà, il a affiché ça, on a vu quand même que le candidat Fillon, lui, n'a eu de cesse de rappeler qu'il est un fervent catholique, y compris un petit peu trop pour un candidat, je veux dire, ça n'a rien à faire dans la campagne. Franck Tapiro, vous avez raison d'insister sur le côté rassemblement, mais c'est justement ça qui met un peu la puce à l'oreille, quelqu'un qui a chargé de rassembler la famille, et la rassembler la famille politique aussi largement que vous l'avez dit. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est le rôle d'un chef de la majorité. Donc je suis d'accord que l'idée de ticket n'a aucun sens dans la 5e République, parce qu'en effet, on élit un homme face au peuple. Mais quand même, on voit bien que cette idée-là... Attendez, notre vie politique s'américanise, ne serait-ce qu'avec les primaires, etc. On voit que quand on a un candidat qui est quand même un canard boiteux, là, Fillon, il est quand même tenu à bout de bras par ses soutiens politiques. Et ça ne veut pas dire qu'il ne gagnera pas l'élection. Mais c'est un candidat qui est quand même... Non, je ne dis pas du tout qu'il ne gagnera pas l'affaibli. Mais c'est qu'il ne gagnera pas l'élection au final. On verra bien. Mais en tout cas, voilà. Bon, donc cette idée-là, il marche avec deux ailes, et il y a l'aile Baroin, ça peut compter. Dernier petit détail, attention, il y a l'échéance du 15 mars, que se passera-t-il?
Donc, si sa convocation.
C'est pas qu'un avocat, pour moi, il a monté un peu plus de force, un peu plus de niaque qu'un canard boiteux, je suis désolé, il a été attaqué, mais il boite pas pour autant, je trouve pour un boiteux,
il est canardé, c'est un canardé.
Oui, il a été canardé, mais il est pas boiteux pour autant.
Canardé comme il a été, il y a une chose que je tiens à dire, il a montré un courage, une détermination extraordinaire.
Ça n'empêche pas.
Pardonnez-moi, non mais attendez. Quand vous regardez la situation mondiale face à Poutine, face à Trump, face aux Chinois, je pense que demain il vaut mieux avoir un chef d'État qui soit solide. Et là, il a montré vraiment une vraie solidité. Alors ensuite, l'arrivée de François Baroin, dont chacun connaît le parcours chiracien, laïcard, c'est vrai, président de l'Association des maires de France, donc un homme de terroir qui est attaché aux valeurs, aux traditions du pays, et puis qui incarne cette jeunesse. Eh bien, ça veut dire que le rassemblement est lancé. Écoutez, ce matin, on a rencontré François Fillon, et les centristes aussi sont là, arrivent, vont prendre toute leur place dans la campagne, pas simplement sur le projet, dans la campagne.
D'accord.
Pas une seule heure à perdre, et nous y sommes, parce que ce rassemblement, il ne marchera pas sans nous, et on le fera avec efficacité. Et vous verrez, et je vous donne rendez-vous d'ailleurs, vous allez voir, dans quelques jours, les infections vont commencer à s'organiser dans les sondages, pour une raison simple, parce que le conglomérat qui est en train de montrer Emmanuel Macron, j'entends bien les ralliements qui se sont passés, mais regardez, Robert Rue qui est arrivé avant-hier, Patrick Brahouzek qui est arrivé, entre les communistes, les socialistes... il y a évidemment quelques valsistes, du moins l'aile droite.
On se croit presque chez les centristes, en fait.
Non, mais attendez, vous avez pu observer qu'il y a eu un bureau politique de UDI avant-hier.
Oui, mais
est-ce que depuis. Non, pas du tout. Non, c'est nous avions mis la campagne, entre parenthèses. Il y avait un certain nombre de choses qui devaient être mises sur la table. Elles le sont. C'est le candidat définitif pour gagner avec la droite et le centre. Nous sommes à fond.
Alors, Bruno Roger Petit.
Moi, une fois qu'on a dit que Baroin ne pouvait pas être candidat à la place de François Fillon, on peut dire autre chose. François Baroin, c'est l'homme qui a bloqué la candidature de substitution d'Alain Juppé. Clairement, nettement, définitivement, absolument.
C'est surtout Nicolas Sarkozy, l'homme qui a bloqué.
Non, mais je vais y venir.
Attendez.
Je vais y venir. Voilà. Il l'a bloqué en plein accord avec Nicolas Sarkozy.
Bien sûr.
Bon. Quand tout le monde a vu François Baroin derrière François Fillon au Trocadéro, on a tous compris le message.
Juppé était bien placé, en plus,
il est arrivé en retard et on a bien fait exprès de le mettre derrière. Ah, oui. Bon, la construction de l'image, c'était ça.
C'était nickel.
De quoi s'agit-il maintenant? Il s'agit d'organiser au mieux, la campagne présidentielle de François Fillon pour qu'il ne perde pas de telle façon que derrière, la droite soit dans un état...
Mais ne croyez pas que le boulot, c'est de rassembler
dans
une campagne.
Assez,
café
Cazeneuve, assez
c'est
problématique. Attendez, café, avant d'aller aux législatives. Je constate que l'invisible Nicolas Sarkozy est omniprésent et qu'effectivement, ceux qui pensaient qu'on en était débarrassé, une fois que François Fillon aura probablement perdu le premier tour de l'élection présidentielle, mais si c'est une réalité, il sera toujours là.
Franck Tapiero, pour vous, c'est vrai, aujourd'hui, on le voit, le marionnettiste? C'est ça?
Bon, on le voit, on l'entend. Oui, mais pourquoi? Mais enfin, c'est assez compréhensible. On connaît la guéguerre qu'il y a toujours eu entre Juppé et Baroin.
Parce qu'on se souvient de François Fillon avec des mots très durs contre Nicolas Sarkozy. Il se retrouve aujourd'hui encerclé par ces troupes-là de Nicolas Sarkozy.
Mais Nicolas Sarkozy, je l'avais dit ici, tout le monde a cru qu'il était fini pour la politique parce qu'il avait été sorti de la primaire. Je lui ai dit, mais il n'est jamais fini. Mmh. Et c'est pire que ça, il va se positionner comme le parrain. C'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Le parrain, vous connaissez Godfather avec. Et on voit très bien qu'il arrive finalement à très bien mener sa barque. Et derrière, le sauvetage de Fillon, la présence de Baroin, la disparition de Juppé. Mais il y a le génie de Sarkozy. Et ça, il faut dire que si finalement Fillon y arrive, Sarkozy aurait été pour quelque chose.
Il aura l'habilité de faire rentrer également les JPistes. D'ailleurs, il y a quelques centres JPistes, dont moi, qui sont en train de campagne.
Dans un instant, on va parler d'un observateur très attentif de cette campagne présidentielle. C'est le président François Hollande. Mais l'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Après les incidents mardi au lycée Sugère de Saint-Denis, 6 mineurs sont mis en examen ce soir. 2 autres placés sous le statut de témoins assistés. Ils font partie des 55 personnes interpellées dans la foulée des violences qui ont visé l'établissement et violences sur les policiers à coups de pierre et de cocktails Molotov. 2 ans de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende requis contre François Pérol, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, est jugé en appel à Paris pour prise illégale d'intérêt lors de sa nomination à la tête de Banque Populaire Caisse d'épargne. Il s'occupait de ce dossier quelques mois auparavant quand il travaillait à la présidence de la République. La CGT crée un syndicat pour les coursiers à vélo dans la région de Bordeaux. Plus de 700 livreurs travaillent dans le département pour les plateformes de livraison de repas. Selon le syndicat, ils ont un statut d'auto-entrepreneur mais à la situation très précaire. Cette démarche syndicale est inédite en France devant l'ubérisation de certains métiers. La découverte en Alaska d'un gisement de pétrole, sa capacité d'environ 1 milliard 200 millions de barils. Il s'agit de la plus grande découverte conventionnelle d'hydrocarbures des 30 dernières années sur le sol américain. C'est un potentiel maximal de 120 000 barils par jour. Et puis Jeff Koons et le centre Pompidou condamné pour contrefaçon. Le tribunal de grande instance de Paris considère que la sculpture Naked du célèbre plasticien américain est bien la contrefaçon d'un cliché du photographe français Jean-François Boré. Ils devront verser 40 000 euros, dont la moitié aux ayants droit.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Et il y a une chose qui est vraie en ce moment, c'est que le président de la République n'en peut plus. Hein, d'ailleurs, il paraît qu'il a essayé l'acupuncture, mais les aiguilles se tordent tellement il est tendu. En fait, selon lui, et c'est des échos repris par Le Monde, datés d'aujourd'hui, la campagne serait de basse qualité, les primaires incompatibles avec la 5e République, et le futur débat réunissant tous les candidats, vous savez, notamment sur TF1 et France Télévisions, serait, je cite toujours, une idée épouvantable. Emmanuel Macron commencerait à l'énerver, il ne sait pas quoi dire à Benoît Hamon. Alors, en plein doute, son Premier ministre a choisi, ce sera le rassemblement avec Benoît Hamon, Bernard Cazeneuve.
Nous sommes à un moment où il faut rassembler. Et rassembler tous ceux qui sont déterminés à lutter contre le Front National. Et pour ce qui concerne le candidat investi par la primaire, il faut rassembler toute sa famille politique. Cela signifie qu'il faut inscrire l'espérance qu'il incarne dans la continuité de ce qui a été fait de positif pendant ce quinquennat.
Voilà, c'était le Premier ministre Bernard Cazeneuve ce matin au QG de Benoît Hamon. Alors Henri Vernet, forcément aujourd'hui on a été un peu surpris par une chose du Parisien aujourd'hui en France, ce serait ce 500 signatures bloquées.
Un matelas secret
bloqué donc pour François Hollande.
Mais au cas où.
Qu'est-ce que c'est cette histoire ?
C'est l'histoire d'un animal politique. De gens, on parlait de Sarkozy à l'instant, mais François Hollande est fait du même bois. Ce sont des animaux politiques qui ne savent faire que ça, finalement. Et encore, Sarkozy, à un moment, avait dit « Allez, moi, j'irai faire du fric ». Mais Hollande, il n'a même pas du tout cette passion. Ça l'intéresse pas, ça. Donc, c'est quelqu'un qui se dit peut-être aujourd'hui qui regrette, finalement, le discours qu'il a prononcé le 1er décembre. Évidemment, il pouvait pas prévoir une telle configuration, un tel éclatement. Et qui se dit qu'aujourd'hui, s'il était là, pourquoi pas un minuscule trou de souris, comme il aimait à décrire sa stratégie un moment avant de renoncer. Bon, attention, c'est tout ça et de la politique fiction, mais imaginons que Macron se mette à dévisser. Il a fait 2-3 erreurs, les fameuses, la colonisation, les gens humiliés, etc. Bref, on ne sait pas. Peut-être que il pourrait avoir un accident. Imaginons que Hamon tombe décidément en dessous de Mélenchon, etc. Et puis surtout, François Hollande, en effet, est obsédé par le péril Marine Le Pen. Et il se dit que dans ce cas-là, finalement, lui qui en fait vraiment, son objectif numéro un, de contrer ce qu'il estime être une menace pour la France, il se dit que oui, il pourrait. Alors.
C'est très courant quand même, puisque c'est quand même le 17, le dépôt des candidatures.
Oui, mais attendez, quand on s'appelle François Hollande, il reste quand même suffisamment d'amis. On a quand même gouverné la France pendant 5 ans. Il reste suffisamment d'amis. Vous pouvez les dépasser, les déposer le dernier jour. Ça
va être d'avoir 5 ans. Franck Tapiro,
on le sait, François Hollande a beaucoup d'humour. Il est très joueur. C'est vraiment, c'est extraordinaire.
Mais là, il a joué avec le théâtre politique.
Non, mais attendez, c'est un happening.
Il a des regrets.
La somme du n'importe quoi. Mais alors là, qu'il ait des regrets, c'est normal. Il s'emmerde. Donc c'est vrai qu'il serait peut-être mieux dans cette campagne que là où il est aujourd'hui, à faire ses visites qui ne servent à rien. Ça le démange. Pourquoi? Parce qu'il se dit, finalement, que entre Macron, il avait de l'espoir, mais il l'estime lui. Alors que Macron, quand même, monte dans les sondages. Il suffit de le voir, qu'il n'est pas totalement en phase avec ce qu'il pensait. Hamon, c'est opération sauvetage. C'est vraiment, il faut sauver le soldat Hamon avec les derrière les bottes aux lettres. Quand on voit vraiment Hamon qui a l'air complètement perdu dans cette image avec les bottes aux lettres derrière, c'est vraiment incroyable. On a l'impression que, si Hollande venait demain à se présenter, ce serait le Taubira de 2017. Il ferait perdre définitivement à vie les élections à la gauche.
Bruno Roger-Petit, on sait que son gouvernement, François Hollande, est tenté à la fois par Emmanuel Macron, certains par Hamon, d'autres ne font rien. Est-ce que François Hollande aujourd'hui a la main dessus, justement, sur ses ministres et leur conseiller encore quelque chose?
Son problème, c'est qu'il n'a la main sur absolument rien, mais rien.
Sur le courrier.
Je vois bien, on connaît les méthodes de François Hollande. Alors, il reçoit quelques journalistes ces jours-ci. Il fait quelques. Derniers journalistes, entre guillemets, amis. Donc, il fait savoir qu'il n'est pas content, que Macron.
Quel est l'intérêt pour lui de faire fuiter ça, justement? C'est quoi?
Je ne sais pas.
De dire qu'il est encore là.
Tenter d'exister. Il a accordé une interview au Monde il y a 3 jours sur l'Europe qui a fait la une du journal. Personne n'en a parlé. Personne. C'est-à-dire qu'il est, depuis le 1er décembre, il est passé par pertes et profits pour tout le monde. C'est comme ça. Et il ne peut pas y échapper. Donc il essaie de s'inventer un rôle. Attention, je vais être la vigie qui va vous avertir du danger Front National. Bon, merci, on l'a vu. Et puis son problème, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui l'invente. Je vais vous dire sa vraie douleur, c'est ça. Plus que Manuel Valls, c'est Emmanuel Macron. Il l'avait inventé pour empêcher Valls d'émerger et d'être candidat contre lui à l'élection présidentielle. Et les deux l'ont piégé, pas ensemble, en concurrence, mais les deux l'ont enfermé dans un rôle dont il n'a pas pu sortir, qui était celui...
Moi, je crois que sa vraie douleur, c'est Valls. Plus que Macron. Non. Macron, il l'a créé lui-même.
Macron, c'est plus douloureux qu'on ne le croit.
Vigier, est-ce que le président de la République doit s'exprimer, donner finalement son candidat?
Écoutez, moi, je trouve que c'est pathétique.
La posture de François Hollande.
Ce qui est pathétique, François Hollande, regardez le bilan de son quinquennat. Je ne parle même pas du bilan économique et social. Incapable de se présenter. En fait, il a renoncé à la dernière minute. On voit bien, d'ailleurs, une heure avant, ses plus proches collaborateurs ne savaient même pas ce qu'il allait raconter. Ouais. Et là, maintenant, il ne sait pas comment faire pour exister dans la plaine, pour qu'éventuellement, il y ait une caméra qui se fixe sur lui. Non, mais c'est ridicule. Le coup des 500 signatures, je n'y crois pas une seule seconde. Alors, vous disiez tout à l'heure, droite éclatée, pardonnez-moi, là, il y a 3 couloirs, entre les Mélenchon, le Hamon, et puis Emmanuel Macron. Donc, je pense que, franchement, c'est un naufrage politique. Mais pourquoi? Parce qu'il a passé sa vie à faire quoi? Premier secrétaire du Parti Socialiste. À faire des motions impossibles où tout le monde se rassemble, où on enlève une demi-phrase, on en rajoute une deuxième. Et voilà ce qui s'est passé. C'est que ça a été l'échec total. Mais au-delà de tout ça, son quinquennat, il n'y aura pas de bilan. Mais pire que cela, c'est la fonction présidentielle qui est abîmée.
Alors, et ça, c'est l'absence de crédibilité des Français dans l'action publique.
Ça a commencé sous Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est ce que j'allais dire. L'abaissement de la fonction présidentielle.
Ça fait deux quinquennats. Tout à l'heure, on disait, mais si je vois en tout cas une différence particulière entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est qu'on voit Nicolas Sarkozy, dans le fait que François Fillon soit reparti d'un bon pied, au moins, il a joué un rôle utile. Je vois que là, François Hollande n'arrive à rien faire. Or, il dépêche même son premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui est plutôt d'ailleurs un bon premier ministre, pour essayer de voir comment il va pouvoir colmater la fuite d'eau qui se passe chez...
Ah bon. Hollande peut faire perdre. Moi, je suis pas d'accord. Tant Nicolas Sarkozy peut faire gagner Fillon. Je pense que Hollande, sincèrement, peut faire perdre. J'espère pas Macron et Hamon, mais peut faire perdre carrément la gauche au sens où Hamon peut descendre au-dessous de Mélenchon à cause de ses atermoiements.
Moi,
je pense
peut-être...
on n'est pas au bout des surprises négatives de François Hollande. Je suis convaincu.
Peut-être joue-t-il le recours. Dans quelques années, on ne sait jamais.
Henri Vernet.
Non, c'est vrai que le seul rôle vraiment utile que peut avoir François Hollande, c'est de clarifier un petit peu la situation à gauche, dans la mesure, en effet, où il le peut. Attention, dans cet article, nous, on dit bien que ce n'est pas du tout un scénario qui va se passer. On donne les conditions qui, pour l'instant, sont en effet un scénario. Donc, dès qu'il y a un scénario, c'est qu'on est dans une certaine fiction. En même temps, c'est une fiction qui est assez réaliste.
Alors, je posais une question.
Le rôle qu'il peut avoir, quand je dis clarifier, rapidement, c'est arriver à ce qu'à la fin, il n'y ait peut-être pas trois candidats à gauche. Là, il y en a deux qui se marchent sur les pieds, qui sont Mélenchon et Hamon. Si en plus à Macron, il y aura un vrai problème.
Voilà, Bruno Petit, je voulais vous poser une question sur Emmanuel Macron. Tout à l'heure, Philippe Vigier, je ne sais pas s'il aime Emmanuel Macron, mais bon, apparemment non. Vous avez parlé notamment des soutiens Robert Hue, des choses comme
non,
ça.
Non, voilà. Contre l'homme, simplement.
C'est moins important.
Le conglomérat politique qu'il fait, il sera en incapacité.
Je voulais vous parler, là, on parle beaucoup d'un soutien d'un ministre de poids le plus populaire, c'est Jean-Yves Le Drian. Est-ce que ça, c'est un soutien véritablement important pour Emmanuel Macron si celui-ci se concrétise?
Beaucoup plus que celui que pourrait lui accorder François Hollande, parce que je pense qu'un des cauchemars d'Emmanuel Macron serait que François Hollande adresse un geste en sa faveur. Il a mis tellement de soins à se déconnecter de lui, comme Benoît Hamon d'ailleurs. Les deux ont réussi de ce point de vue-là, qu'il ne voudrait pas être encombré de ça. Je ferme cette parenthèse, je réponds à votre question. Quand on aligne en 3 semaines François Bayrou, Bertrand Delanoë et Jean-Yves Le Drian, on ne peut pas considérer que ce n'est pas sans importance. Mmh. C'est considérable. Voilà. Oui. Et ça efface... tous les petits soutiens de personnalités intellectuelles, telles Alain Minc ou Bernard Kouchner et autres, qui dans le fond passent au-dessus de la tête de la majorité des électeurs, parce que ça, ce sont des soutiens qui politiquement signifient quelque chose. Et effectivement, la constitution d'une force, comme entend la constituer Emmanuel Macron, c'est-à-dire qui va du centre-gauche au centre-droit, où tout le monde est à peu près d'accord sur politique,
politiquement et symboliquement,
libérale,
parce que
et économique libérale.
Et symboliquement, parce que Le Drian, c'est la défense, c'est la sécurité, c'est de l'épaisseur à ce niveau-là.
C'est le plus populaire.
Et c'est ce qui manque. Oui, populaire, mais aussi, encore une fois, c'est la défense, un enjeu stratégique, cette épaisseur. C'est aujourd'hui ce qui manque un petit peu à Macron, c'est un petit peu le genou, parfois,
On va continuer à parler de la gauche dans un instant. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Les soupçons d'emploi fictif d'assistant parlementaire au Front National. Un nouveau nom est ajouté au dossier, le nom de Gaël Nofri. Cet ancien conseiller de Marine Le Pen explique fin février avoir signé en 2011 un contrat de campagne avec Marine Le Pen avant de se voir contraint de signer un contrat avec le Parlement européen, ce qu'il a refusé. Le parquet décide de rattacher son nom à ce dossier. Le revenu universel de Benoît Hamon coûtera autour de 35 milliards d'euros chaque année. Le chiffrage de Benoît Hamon lui-même. Le socialiste précise, s'il est élu président de la République, ce revenu sera de 600 euros par mois pour tous les Français pauvres, étendu à tous les travailleurs, quel que soit leur statut, salarié ou indépendant, dès 2018. Deux frères mis en examen pour financement du terrorisme en Haute-Saône. Deux hommes interpellés dimanche dans l'agglomération de Vesoul. Ils auraient envoyé de l'argent à leurs frères en Syrie. L'un a été placé en détention provisoire. L'autre est sous contrôle judiciaire. Les USA ont déployé 400 soldats supplémentaires en Syrie. Les Marines, les Rangers, doivent donner un coup d'accélérateur à l'offensive menée contre Raqqa, capitale de fait de l'organisation État islamique en Syrie. Ils viennent s'ajouter aux 500 militaires américains déjà sur place. Et puis l'Olympique lyonnais face à l'AS Rome. C'est l'affiche des 8e de finale aller de la Ligue Europa. Coup d'envoi depuis la capitale des Gaules à 21h05. C'est à vivre dans le Classico sur France Info.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la gauche. En ce moment, il se passe des choses, notamment du côté de François Hollande, qui vient de demander à ses ministres de ne pas s'exprimer avant le 24 mars, ça serait bien. Alors, est-ce qu'ils vont tenir jusque-là concernant leur choix de candidat à la présidentielle? Et puis ce soir, Benoît Hamon, donc candidat de la Belle Alliance Populaire, qui participe à l'émission Politique, vous savez, sur France 2. C'est vrai, Franck Tapiero, sa précédente prestation, un peu comme François Fillon finalement, lors de la primaire de la gauche, lui avait beaucoup servi. Donc cette émission Politique peut servir également à véritablement voir qui sont les hommes. On se souvient de François Fillon qui a été sorti gagnant de cette émission, comme Benoît Hamon d'ailleurs.
Ça n'a absolument rien à voir. Les primaires, c'était un débat d'entre-soi. Il était urgent de dire à quel point nous étions amis, évidemment, et qu'il n'y avait aucune dissension entre nous, dans la famille. Peut-être quelques différences. Le bal des faux culs. Là, on est enfin face à des adversaires politiques. Donc la révélation, elle se fait maintenant. Et le 20 mars, pour moi, et je crois que tous les Français l'attendent, surtout la moitié alors, d'entre eux qui n'ont pas encore décidé pour qui ils allaient voter.
C'est ça.
Donc ça, ça va être vraiment très important.
Philippe Vigier, c'est vrai qu'on s'est posé la question avant le début de cette campagne encore l'intérêt de ces grandes émissions politiques comme ce soir sur France 2. Il va y avoir des débats, par exemple le débat sur TF1 le 20 mars, ce fameux débat. Oui. Vous-même, vous l'attendez. Est-ce que vous appréciez d'ailleurs l'exercice?
Ah, moi, j'apprécie l'exercice des débats parce que c'est le fond.
Bien sûr.
Là, on a parlé de l'écume des vagues depuis plusieurs semaines. Et en fait, mais derrière, c'est le présidentiel. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 5 ans? Les Français, ils sont dans l'attente. Vous voyez, hier soir, moi, j'étais dans mon département, je faisais des réunions dans une toute petite commune. Des communes, 300 habitants, où il y a 15 personnes qui arrivent, j'avais jamais vu ça. On est paumé. Qu'est-ce qui va se passer? On attend les débats. On veut la confrontation d'idées. Et à partir de là, on fera notre choix. Et d'ailleurs, on voit bien dans les sondages, en dehors de Marine Le Pen, qui focalise un pourcentage très important de personnes qui auront voté de façon certaine pour elle, François Fillon était juste un peu derrière, mais c'est friable pour l'instant pour Benoît Hamon, c'est friable également pour Emmanuel Macron. Donc c'est dans les débats et dans cette confrontation qu'on verra les vrais projets qui vont se dérouler.
Henri Vernet, on voit que ça se précise. Hein, au départ, on se demandait si ça allait se faire pour des histoires de temps de parole. Bah, finalement, ça va se faire. Hein, le 20 mars, donc sur TF1, ça sera la première fois en France. On a vu que les Français avaient suivi les débats de la droite.
Mais bien sûr, c'était passionné par ça. Non, mais les Français, ils ont clairement compris que les enjeux de cette présidentielle, donc au-delà des de tout ce à quoi on assiste depuis des semaines, ils sont vraiment importants. En gros, que voilà, c'est un petit peu cette fois ou jamais que ce pays, il faut le réformer, il faut y aller. Mais juste là, vous parliez d'abord de l'émission de ce soir. Je pense, oui, qu'elle est profondément utile. Vous aviez raison de rappeler qu'elle a été presque salvatrice hein, pour François Fillon, qui était très loin derrière. On parlait plus de lui. Peut-être pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il ne s'est pas arrangé pour ses affaires auparavant, parce qu'il n'était pas considéré. Et oui. À l'époque, il n'était pas vraiment dans la course.
Vous voulez dire qu'il regardait les sondages, finalement.
Et ce soir, ils étaient loin. Et ce soir, Benoît Hamon, il joue gros parce qu'il a perdu toute densité qu'il avait justement acquise dans cette précédente émission, l'émission Politique. Là, finalement, on ne sait plus c'est quoi son programme, qu'est-ce qu'il pense. Alors, le revenu universel, il le fera, il ne le fera pas. Comment l'Europe, tout ça. Parce que malgré tout, il a de vraies idées. Sauf que depuis un mois, il n'a fait que parler à Jadot, essayer de parler, enfin, fait semblant d'essayer de parler à Mélenchon. Exactement. Et là, maintenant, on l'attend. Attendez, paradoxalement, il est très peu connu. Il est candidat on a des candidats à la présidentielle qui sont peu connus. C'est vraiment le cas. Peut-être encore plus que les autres, de Benoît Hamon.
Bruno Roger Petit, pour vous, cette émission. C'est important, finalement. Là, aujourd'hui, pour Benoît Hamon.
Pour lui, c'est très important. Petit rappel quand même, quand il fait l'émission Politique en novembre dernier, c'est un des pires scores d'audience de cette émission. C'est-à-dire que ce jour-là, ne sont venus le regarder que les futurs électeurs de la primaire socialiste qui avaient envie de se dire, parce que comment dégager Valls le mieux possible avec ce candidat, puisque Montebourg était déjà un peu usé. Bon, j'ajoute aussi qu'il est passé à On n'est pas couché la semaine dernière, pire record d'audience aussi pour l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Bon, il y a ça. Donc visiblement, c'est un candidat qui peine à imprimer dans l'opinion, en règle générale. Puis deuxième remarque, le programme. Quand il vient faire la première fois l'émission Politique, c'est là qu'il lance son idée de revenu universel. Allons-y, 450 milliards, welcome tout le monde, aura un petit budget, un petit revenu universel. Aujourd'hui, on en est, tout a été revu à la baisse, ce n'est plus qu'un RSA amélioré pour les 18-25 ans. Donc ça, il va falloir l'expliquer. Et j'ai cru comprendre que François Langlais l'attendait au tournant.
Alors, juste une chose, Franck Tapiero, parce que vous savez, ça doit se terminer à un moment, les informés de France Info, c'est pas indéfini, hein, comme certains voudraient. On a très peu de temps, juste pour dire que vous ne vous fiez plus au sondage, vous ne vous fiez maintenant à autre chose que vous lancez, d'ailleurs,
ce soir.
En fait,
on l'annonce ce soir, c'est une première mondiale, le 20 mars, avec la start-up Data Calab que j'ai montée avec Marie Gauthier et Xavier Fischer. On va lancer le premier suffrage émotionnel des présidentielles. Donc c'est une boîte de neuromarketing. On a récupéré énormément d'outils issus des neurosciences qui va sur un panel d'une trentaine de personnes que notre partenaire MV2 va sélectionner, complètement droite, gauche, un homme, femme, par les provinces, va être équipé de capteurs émotionnels qui va permettre pendant toute la durée du débat du 20 mars de voir à l'image près au thème près quelles sont les émotions positives et négatives qui vont être générées. Comme ça, on va enfin pouvoir voir que 90% malheureusement des choses qui nous entourent sont gérées par notre inconscient. Ouais. Et ça, les sondages ne parlent que des 10%.
Ça s'appelle le sondage émotionnel à suivre avec Franck Tapiro. Merci beaucoup d'ailleurs Franck Tapiro d'être passé ce soir. Merci Bruno Roger Petit. Je rappelle votre livre, Le pire d'entre eux, aux éditions Stock. Donc c'est François Fillon que je vais offrir à Philippe Vigier ce soir. Merci beaucoup d'être passé.
Parce que c'est un pilote automobile et il sait ce que c'est qu'un rush finish.
Très bien, voilà, on le saura. Henri Vernet, la une du Parisien aujourd'hui en France demain.
Les affaires judiciaires de Marine Le Pen, car elle en a beaucoup, elle va pas chez les juges. Donc voilà, on
l'éclairage.
Allez, il est temps pour nous de passer à Mathieu Maestrachi. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Petite idée de quoi vous avez parlé ce soir.
Et très belle transition, puisqu'on va évoquer un match auquel a assisté Franck Tapiro hier soir. Sans doute une des prestations les plus invraisemblablement grotesques de l'histoire du foot français, le PSG, qui est donc sorti piteusement en 8e de finale de la Ligue des Champions, battu 6-1 par Barcelone après le 4-0 qui avait enchanté l'Europe au match aller. Comment expliquer la déroute? Qui est responsable? Et surtout, comment rebondir avant la fin de saison? À tout de suite.
Le Classico, débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.